France Inter.
Club.
Go.
Go.
Bonsoir, go et bienvenue à toutes et à tous. C'est Côté Club, 1er janvier 2024. Que l'année vous soit douce et bonne. Côté Club 2024, on persiste et on signe. C'est toujours et encore plus votre magazine live, The Rendez-vous avec toute la scène française, francophone et plus ses affinités avec ce soir. Et c'est un bonus. Marion Guilbault, bonsoir.
Bonsoir Laurent et bonne année à tous et à toutes.
Ce soir, il est sur un nuage, en tout cas sur la pochette de son nouvel album. Mika, bonsoir.
Bonsoir.
Un plan discothèque pour vous, Pierre Troyes, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et bonne année
et
à
bonne
vous
année.
Deux.
Bonne année à tous.
Mika, vous signez Que la tête fleurisse toujours. Un nouvel et sixième album, mais le premier tout en français, des textes qui ne font pas l'économie d'une certaine tristesse, complètement court-circuité par la musique, pop anglo-saxonne, calypso, une invitation à la danse, au touche-touche, à bouger. À vos côtés, Pierre Troyes signe son premier album solo, Discothèque, et cela joue DJ Superstar, Contact. Marion.
Zoom sur le premier festival musical de l'année avec l'Hyper Weekend Festival. Création, concert, performance, masterclass, vous saurez tout ou presque vers 22h30.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Mika et Pierre Troyes sont les invités 1er janvier 2014 ce soir. Que faut-il vous souhaiter chacun pour cette nouvelle année, Mika?
Ah.
De l'amour, vous en avez. Du succès aussi.
Oh,
de l'argent aussi.
Franchement,
ouais.
De la joie.
Et pour vous, Pierre Troyes?
Moi, je crois que je suis à la recherche d'une certaine continuité, c'est-à-dire le fait de continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire la musique, quel que soit le vecteur, quel que soit le groupe, le projet, etc. Je pense que le vrai succès, c'est un peu de continuer à faire ce qu'on aime, il me semble.
Et pour vous, Marion?
La paix dans le monde, Laurent.
C'est vrai. Oups. Vous êtes tellement Miss France ce soir. Mika, vous signez votre sixième album, Pierre Troyes. C'est le premier sous ce nom, après 15 ans de musique en groupe, des BO de série, des EP. Est-ce que vous vous connaissez l'un l'autre?
On s'est rencontrés là, juste avant de prendre le micro, et on a des amitiés en commun.
Voilà.
Des collègues aussi.
Des collègues, etc. Mais on ne s'était jamais rencontrés, je crois.
On était supposés se rencontrer,
ouais.
Car j'étais en train de programmer une belle semaine en studio avec un pote à nous qui s'appelle Nick Littlemore de Empire of the Sun,
qu'on salue.
J'avais fait un album et je vais reprendre avec lui là pour un projet en anglais. Et Nick avait appelé Pierre.
Voilà, m'avait suggéré de participer à ces sessions de production, écriture, etc.
Et vous aviez dit non merci?
Comment?
Vous aviez dit non
j'avais
merci.
J'avais dit avec plaisir, mais je crois que finalement
ça s'est pas fait, mais ça va se faire. En fait, avec c'est Nick, drôle. Nick, il a une certaine manière de travailler. C'est un personnage assez excentrique et avec beaucoup de talent. Il faut juste avoir de la patience.
Ah oui, d'accord, ça veut dire beaucoup de choses.
Ouais, ça veut dire beaucoup de choses.
C'est ce que dit Marion de moi, ses copains.
et je sais jamais le délire dans lequel je vais rentrer quand je suis en séance avec lui, mais vraiment. Et il me fait toujours des surprises et c'est cette manière de me déstabiliser à chaque fois qu'on travaille ensemble.
Par exemple,
Pierre, moi j'avais aucune idée qu'il allait y avoir Pierre.
Ah oui, d'accord, oui.
Et en fait, maintenant l'idée me plaît énormément.
Ah, c'est drôle.
Parce que c'est parfait. Il renforce cette idée du chaos et de la communauté. Et quand chacun a son domaine dans ce métier, c'est trop triste. Et donc, moi je suis prenant.
Bon.
Mika, premier album en français, on va revenir sur cette exception culturelle, mais juste une piqûre de rappel, dans cette discographie qui compte des tubes interplanétaires depuis 2007. Puis comme on est le 1er janvier 2024 et que Marion voulait absolument l'entendre, Grace Kelly. Ah. Des tubes imparables pour danser. Vous-même, quel danseur êtes-vous, Mika?
Avec beaucoup d'émotion. Moi, je dis toujours, je ne sais pas danser, mais je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. comme nous tous, hein, quand on est seul. Quand on est seul et on se... Je me souviens toujours, et je le fais toujours, je vous le dis.
Ouais.
Lumière dans le couloir, pas de lumière dans la chambre, il y a un miroir, je danse en silhouette en faisant semblant d'être le chanteur de INXS. Eh ben, franchement, ça,
ça marche.
Ouais, ça marche. Et vraiment, c'est comme ça que je danse sur la scène.
Et pourquoi celui de INXS, ça marche comme une référence, Michael Hutchence?
Lui, ouais. Michael Hutchence.
Ouais.
Parce que qui n'est pas amoureux de Michael Hutchence? Quand il était... Mais tout le monde, peu importe si on est gay, straight, on s'en fiche. C'est cette idée, Michael Hutchence fait partie de ces gens, un petit peu à la James Dean, un petit peu, on peut dire, un petit peu à la Bowie, ou cette obsession qui va au-delà de juste une attraction sexuelle.
Et vous, Pierre III, qui signez un album de DJ avec discothèque, quel danseur êtes-vous ?
Je suis un danseur instinctif, je crois, j'ai des très bonnes chevilles.
Ah bon, c'est pas mal.
Ouais, très souple sur les chevilles, j'ai un mélange de JK. Et de, pas, ouais, un truc un peu comme ça, je crois. Ouais.
Allez, on entre dans ce nouvel album Mika avec un titre positif, C'est la vie. Peut-être un mot d'abord sur cette chanson, parce qu'elle a un statut privilégié. On y entend la phrase qui sert de titre à l'album, que ta tête fleurisse toujours, et non pas que la tête fleurisse, comme j'ai pu dire tout à l'heure dans le générique.
Ouais, il y a une grande différence, hein, parce que c'est une sorte de... Bon, c'est un message que moi j'ai reçu de ma mère, avec qui j'ai travaillé, c'était elle... qui m'a vraiment transmis cette passion pour la musique et cette discipline surtout, elle était tough. Je pense qu'on a tous quelqu'un derrière nous. Il y a toujours une personne, mère, père, un professeur. Toi, c'est qui, Pierre III ?
Ce serait ma meuf, tout simplement. Ma femme, la mère de mes enfants. Je pense qu'à chaque fois que je lui fais écouter une démo, fébrilement, depuis toujours, depuis 15 ans, voilà, son avis est au-dessus des autres.
Voilà.
Et je sais que je peux lui faire confiance et qu'elle sera intransigeante.
Ouais, mais c'est toujours terrifiant.
Et cette intransigeance, je la cherche chez elle aussi. Hein. Ouais. Parce que sinon, c'est super.
Ah oui, non, quand on dit oh, c'est super, c'est que ça va pas.
Voilà.
Pire, c'est intéressant. Là, vous savez, il faut changer de. Il faut tout changer.
Il faut changer de métier.
Véritablement.
Alors, j'ai reçu un message de ma mère. Elle était malade. Et elle avait un cancer du cerveau. Donc. De messages de quelqu'un qui est en train de perdre des capacités cérébrales pour te dire j'espère que toi, ta tête puisse fleurir toujours. C'est aussi une provocation vers le futur. Et c'était la dernière chanson que j'avais écrite pour l'album. Pas nécessairement la plus agressivement commerciale, on va dire, plutôt poétique, avec une voix qui est assez douce dans le truc. Et je pose des questions. Je dis c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi tous ces trucs? C'est quoi le placard fermé à double tour? J'explique pas tout. Mais ensuite, à un certain moment, je reprends cette phrase. Je dis mais si c'est ça la vie, et si c'est ça la mort, si c'est ça l'amour même, eh ben que ta tête fleurisse encore, que ta tête fleurisse toujours. En fait, je sens que j'ai fait le deuil. Ça m'a pris 2 ans, ça prend du temps, ça a pris 2 ans et demi, j'ai fait le deuil, et pourquoi pas ça comme premier single, pourquoi pas ça comme titre. Et j'ai trouvé ça un petit peu, je dis toujours cette idée de la douce résistance, une sorte de, une résistance, un engagement poétique avec sa propre vie, et cet album est un exemple de ça, au moins pour moi.
Dans votre répertoire, Mika, quelle est la chanson qu'elle préférait, ou mieux, la chanson que vous lui associez à votre mère ?
C'est une bonne question, parce que c'était une chanson alors que j'avais écrite et que j'avais produit avec Nick Littlemore.
Ah, voilà.
Voilà, ça revient à notre
le fameux
pote d'avant avec qui on va travailler tous les trois. En fait, c'est une chanson qui s'appelle Heroes, qui est très peu connue de moi, et c'est une chanson qui reprend le concept d'un poème de A.E. Housman qui parle des victimes de la Première Guerre mondiale et tous ces enfants, c'était presque des enfants, hein, tous ces jeunes hommes qui sont partis, toute une partie de la génération qui est morte dans la Première Guerre mondiale. Et moi, je transforme le poème et je parle de... lui, il dit « The men who will die in the glory and never grow old ». Les hommes qui vont mourir dans leur gloire et qui vont jamais vieillir. Et moi, je dis, il ne faut pas mourir dans sa gloire pour ne jamais vieillir. Car les héros sont beaucoup plus faciles à aimer quand ils sont morts. Évidemment, je suis en train de parler de tous ces soldats, ces femmes, ces hommes qui reviennent de la guerre, qui ont des énormes cicatrices psychologiques, et ça a des énormes conséquences sur leur vie privée, leur famille, même leur travail. Et ils n'ont pas d'aide. Surtout aux États-Unis, ils n'ont pas d'aide. Donc moi, je parle de ces héros qui sont tellement difficiles à aimer car ils sont toujours en vie.
Ça, c'était la chanson préférée de votre mère.
Ouais. Ouais, parce qu'elle m'a dit, au moins, elle avait toujours ce truc, trouve une manière, elle me lançait toujours des défis pour me dire, trouve une manière de raconter quelque chose de beaucoup plus large que toi, en restant pop. Et c'est ce drôle truc, hein. Et je pense que c'est une philosophie aussi assez anti-snob par rapport à ça. Et donc, je sais pas, je pense que pour elle, ça représentait quelque chose de sincère.
Que ta tête fleurisse toujours.
J'espère.
C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. C'est son jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore. Parce que c'est ça. Elle me le dit. Alors la vie, regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi. Avec des fleurs, même en silence, elle me le dit. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça.
C'est la vie, signé Mika, extrait de ce nouvel album Que ta tête fleurisse toujours. C'est votre premier album tout en français. Vous y pensiez depuis longtemps? Parce que vous avez déjà chanté en français.
Ouais, mais j'ai jamais fait un album, c'est différent.
Qu'est-ce qui vous retenait, la carrière internationale?
Non, je sais pas, c'était aussi... je voulais me dédier, avoir le temps de me dédier à ça. Je pense que les choses arrivent naturellement, d'une certaine manière. Il faut bien réfléchir quand on est en train de les faire, mais il ne faut pas être trop dans le contrôle par rapport à quand programmer les choses. Il faut juste répondre à une envie. J'en suis certain.
Dans un entretien, vous parlez de cette langue française et vous dites que vous auriez moins de pudeur en français qu'en anglais. Ça tient à quoi dans votre histoire?
Je pense que, parce que, évidemment, je parle bien français.
Très bien.
Et je comprends très bien quand les gens me parlent, mais je lis très mal. Et quand on commence à écrire, c'est comme s'il y a une connexion dans le cerveau qui est différente. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'écrire en français que de parler en français. Et donc, ça voulait dire que je me suis retrouvé avec plutôt un langage assez essentiel dans la manière que j'écris sur cet album. Et
très simple, très direct.
Ouais, exactement. Et à tout prix, je voulais absolument préserver ça, même avec mes co-auteurs, un co-auteur que tu connais très bien,
Dorian.
Qui est Dorian. Et dans un sens, je pense que cette candeur, le langage essentiel, une certaine candeur, ça voulait dire que je pouvais être moins pudique. Et de l'autre côté aussi, même dans les mélodies, presque ne pas avoir honte d'être très mélodique. Parce que pour être très mélodique, il faut avoir un petit peu de courage. C'est un petit peu comme l'utilisation de la couleur dans les tableaux. C'est beaucoup plus simple de présenter une visuelle plus retenue dans la couleur. Évidemment. Vous savez ce que je veux dire?
Ah oui, je comprends tout à fait.
Et si on injecte de la couleur dedans, il faut vraiment que ça soit ancré dans une sorte de crédibilité ou une sincérité émotionnelle.
Voilà. Vous parlez de pudeur donc, ou d'impudeur. Quelle serait la chanson de cet album que vous n'auriez pas pu chanter ou écrire en anglais?
Moi, Andy et Paris, ça c'est sûr.
Andy et Paris, c'est-à-dire ouais. Le lien avec votre compagnon.
Et ça part d'une dispute, ça part de
ma... Et ça, en anglais, ça aurait été impossible.
Ah non, je sais pas, même vulgaire.
C'est bizarre.
Et il y a une autre chanson aussi, mais on peut même dire des choses en français qu'on peut pas dire en anglais. Hein. Je brûle la braise, une bulle, on baise. On baise en anglais?
Fuck.
C'est horrible dans une chanson comme ça, chantée comme ça. Mais en français, on a le droit, non?
Oui, ouais, ça passe.
Mais pourquoi? Je ne sais pas.
Et ce qui est très drôle, c'est quand même, on reçoit à tour d'émission des artistes français qui chantent en anglais et qui nous disent absolument le contraire. C'est-à-dire qu'eux, ils choisissent l'anglais justement par pudeur, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, parce qu'ils n'arrivent pas à dire en français ce qu'ils ont.
Pierre, tu
confirmes.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, hein, justement, mais la petite carrière internationale que j'ai eue par le passé est liée à ça. Et je pense que tout ce courant un petit peu, je ne sais pas, c'est un peu galvaudé maintenant, de French Touch, etc., joue là-dessus ce côté Frenchy d'un anglais maladroit, d'un anglais presque un peu simpliste ou presque grammaticalement un petit peu fragile parfois, etc., avec un accent qui n'est pas tout le temps impeccable, il est là l'exotisme. Donc c'est marrant de quel point de vue on se place. Ouais. Donc c'est la première fois que j'entends effectivement plutôt un anglo-saxon dire « c'est plus facile pour moi d'écrire en français, ça m'appartient moins, etc. » Du coup, il y a une poésie qui s'en dégage, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'en France, les musiciens français qui chantent en anglais ont tendance à inverser ce rapport.
À propos de langue, d'ailleurs, je disais que vous apprenez le grec.
Ouais.
Et pour quelle raison le grec? Et que vous vous remettez à la langue arabe?
Dans Moi, Andy et Paris, la chanson, il y a une phrase qui dit « Qu'est-ce qu'il va faire chez les Grecs? Est-ce que là-bas, il y a un mec? Please excuse my French, mais je crois bien que c'est fini. » on sourit comme dans une photo de touriste, Moi, Andy et Paris. Donc évidemment, j'ai besoin de parler le grec pour préparer ce qu'il est en train de foutre là-bas.
J'ai bien compris.
Je reste un con jaloux dans la vie. Hein.
La tournée française commence en 2024, donc dans quelques mois.
Ouais.
Comment vous voyez les concerts, la scénographie pour ce nouvel album, Mika?
Ah, je suis tellement là-dedans en ce moment.
Mais oui, j'imagine.
Tout ce
ça arrive bientôt, ça arrive février. Là.
Ouais, c'est ça. Et alors, j'ai construit tout un grand show. Et ensuite, je me suis rendu compte que je voulais pas commencer avec ce grand show. Et j'ai tellement peur de perdre ce lien qu'on peut avoir quand on est plutôt en mode essentiel dans les festivals, que maintenant je commence ce nouveau show avec une scène sur la grande scène, mais ma scène, elle mesure 1,5 mètre.
Ah oui.
Elle est ronde et ça ressemble à quelque chose comme les petits podiums de cirque pour les éléphants. Et je suis limité à cet espace. Pour la première partie du concert, je ne peux pas bouger de ce podium. Et j'ai décidé aussi de mettre un micro-casque, un micro sur le visage, pour ne pas avoir un micro dans la main, pour me forcer à m'exprimer d'une autre manière et me mettre complètement un petit peu comme un objet qui se présente à son public. Et les musiciens sont tous derrière un rideau, c'est tout ce que je vais vous dire.
Ah ouais?
Ah ouais.
Vous avez un metteur en scène pour ça?
Non.
Ah, c'est vous-même qui avez pensé cette scénographie?
Ouais, ouais. Ouais. Et c'est une décision pour me déstabiliser et pour aussi surtout déstabiliser le public. Parce que quand j'ai commencé à écrire la grande intro et j'ai la possibilité d'avoir des écrans, des visuels, je me suis dit, oh mais attends, mais si je commence avec tout un truc où je raconte des trucs dans des visuels, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait, le public? Mais on peut voir ça partout. Tout le monde a Netflix maintenant à la maison. On voit des contenus et des VFX en permanence, des animations en permanence. C'est pas ça ce qu'ils veulent. Alors qu'on va complètement vers l'inverse, je me mets sur un truc avec des lumières qui sont plutôt sur les côtés et une douche de lumière au-dessus de moi et je les donne mon corps.
Vous êtes Edith Piaf ?
Non, non, je préfère Edith Piaf. Non, Edith Piaf, c'était bon. Edith Piaf, c'était...
Bah alors, vous préférez qui ?
Edith Piaf, Callas.
Ah, ben bah voilà.
Non, 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 moi, je préfère pas. Non, non, moi, je préfère David Byrne.
Ah bah voilà. Voilà, c'est ce que ah bah attendez, on va parler de ça tout à l'heure. Oui, c'est vraiment ça.
Le parallèle, il est, enfin voilà, la construction du concert me fait penser à Stop Making Sense.
Stop Making Sense.
Voilà. Donc bref,
notre référence pour tous.
À tous.
Mais c'est dur hein, aujourd'hui. Je pense que la seule personne qui peut vraiment faire un concert à part David Byrne, mais même lui maintenant, il a dû changer la manière qu'il fait.
Ah, c'est pas
concert.
Mal quand même. Moi, je
l'ai
vu.
C'est très bien. La dernière fois, c'était fantastique.
C'est magnifique, magnifique. Mais c'est pas du tout le même truc essentiel qu'on trouve dans Stop Making Sense. Stop Making Sense, il y a ce côté tellement essentiel, on retrouve cette énergie dans les shows de Bruce Springsteen aujourd'hui. Complètement différent en termes de musique, mais quand même l'essentiel humain, on le trouve là-bas aussi.
Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'était Stop Making Sense, peut-être donner une image du dispositif.
C'est un concert filmé de Jonathan Demme du groupe Talking Heads en 1983, il me semble.
C'est votre année de naissance.
Ouais, David Byrne arrive donc seul sur scène avec une guitare acoustique et un ghetto blaster qui joue une boîte à rythme. Et on voit, voilà, la scénarisation du concert consiste dans le fait que le concert, le gros show, se construit petit à petit de tableau en tableau. Les instrumentistes, les autres musiciens arrivent petit à petit. Les lumières s'éteignent petit à petit, parce que ça commence vraiment avec les lumières de service où on voit le ballet dans le fond, etc. Et c'est, voilà, c'est un concert qui reste révolutionnaire, je pense, dans la scénarisation d'un concert, ouais, je crois.
Mika, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Pierre Troyes dans quelques instants, avec Marion Guilbeault, juste après Camélia Jordana. Je reste calme sur France Inter.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme. Dans des flammes, c'est mon drame, c'est ton innocence que je clame. Je clame, j'ouvre les vannes à mes envies profanes. Je reste calme, mon pouce s'envole et s'accole en. Je sens mon cœur à bout, sans secret, sans remords. Moi j'ai peur, je l'avoue. Ma pudeur pour ta bouche, j'en perds les armes. Ta douceur me secoue, j'en dis beaucoup, je reste calme. Tes regards, ils sont ma crainte, ils sont mon phare. Tu sais que je me garde des joies du hasard.
Janvier 2024 et déjà Marion Guilbeault pense au week-end, l'Hyper Week-end Festival.
Côté club.
France Inter vous fait vivre en direct
L'Hyper Weekend Festival. Oui, zoom sur le premier festival de l'année 2024. Ça se passera chez nous, ici à la Maison de la Radio et de la Musique, du 26 au 28 janvier, l'Hyper Weekend Festival. Troisième édition pour cet événement qui met en valeur et qui célèbre la découverte et la création musicale. Des découvertes avec des premières scènes ou presque pour une dizaine d'artistes, toutes esthétiques confondues, comme Piche, comme Jimmy Magardo, comme La Fable, etc. Des créations audacieuses, inattendues et en même temps populaires, fédératrice comme celle confiée à la chanteuse Barbara Pravi autour du répertoire de Dalida. Une Dalida non pas en version disco boule à facettes, ni en version piano-voix drama queen, mais une Dalida réinventée en diva tzigane. Et avant de laisser Barbara Pravi plonger Gigi Lamoroso en Latchodrome, quatre artistes chaufferont le studio 104 et je voulais m'arrêter sur l'une d'entre elles, c'est Solane. Solane, c'est une primo-chanteuse, voix douce, timbre un peu voilé, mais conviction forte, avec une écriture hypersensible, cathartique. Solane, c'est une enfant de la balle, un père comédien, une ADN musicale qui puise chez Aznavour comme chez Agnès Obel. Elle compose au ukulélé avant de passer ses compos vibrantes sous le feu d'un néo-folk. Dans les années 90, ses grandes sœurs s'appelaient Tori Amos, Fiona Apple. Elles étaient des sirènes en colère comme elle, comme sur ce titre.
Mais c'est une sienne. Se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa à la chaîne. À marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne.
Rome, c'est signé Solane, c'est à découvrir sur la scène du Studio 104 le 26 janvier pendant l'Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique, une soirée qui accueillera également Santa, Lucky Love, Lisa Ducasse et Barbara Pravi, donc en Dalida, Diva, Tzigane. Solane qui sortira le 19 janvier, son premier EP, monstrueux ça s'appelle, et on aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club. Autre artiste à découvrir pendant ces trois jours d'Hyper Weekend Festival, c'est le flamand Yann Verstraeten. C'est un personnage à part sur la scène musicale belge qui cultive un goût pour le chaos et pour les accidents qui vont avec. Yann Verstraeten est issu de la scène punk des arts visuels, un peintre perdu dans le monde de la musique, comme il dit, ou alors le contraire. Allez jeter un coup d'œil à ses clips, ils sont totalement déroutants. Sur Violent Disco, c'était son premier album, il entrechoquait les styles musicaux, les discours aussi, avec l'idée d'abandonner le joli pour vivre intensément le chaos. Musicalement, le son de Yann Verstraeten est ample, avec des arrangements audacieux, comme pour réveiller les consciences et les corps après des mois de pandémie et d'isolement. Ce Belge fantasque a pris le pari de tester en live les titres de son nouvel album, une nouvelle prise de risque, pas la dernière, pour celui qui a fait du désordre son écosystème.
I wanna fly so high, be naked in the sky, and disappear with you, disappear with you.
Yann Verstraeten, Goodbye World, le 28 janvier au Studio 104 en compagnie de Kids Return, de Sophie Royer et de Thomas de Pourquerie. Je vous rappelle le titre de son dernier album, Violent Disco. Enfin, autre temps fort de cet Hyper Weekend, ce sera la création Message Personnel au pluriel, une relecture des chansons de Françoise Hardy par Sage, celle qui règne sur la pop française depuis les années 60, sera à l'honneur avec les participations de Thomas Dutronc, Clara Luciani, Philippe Catherine, Voyou, November Ultra. Tout cela Cela sous la houlette du plus raffiné des réalisateurs et arrangeurs, Ambroise Willaum, alias Sage, qui a œuvré sur les albums de Clara Luciani, Séverin Lompal, Eddie De Pretto et Clara Isée, entre autres. Un Sage également chanteur, guitariste qu'on entend en ce moment avec ses camarades d'Astral Baker sur un projet de folk harmonique. Bref, un Sage incontournable dans le paysage de la pop hexagonale. Du côté de Françoise Hardy, son album Message personnel a fêté ses 50 ans en 2023. Un disque magnifique, culte, qui scelle la rencontre de deux amoureux de l'amour, deux amants peine, deux grands romantiques. Un disque qui s'ouvre et qui se referme par deux chansons signées Michel Berger. Entre les deux, des titres signés Françoise Hardy, bien sûr, mais aussi Gainsbourg, Moustaki. Un disque qui peut s'écouter comme le récit du déclin d'une chanson, d'une histoire d'amour. Un classique, Françoise Hardy, qui fêtera ses 80 ans en 2024, avec les rééditions de chansons qu'on ne trouvait jusque-là que sur des 45 tours ou des compilations, des chansons jamais rééditées jusqu'ici en digital, des chansons rassemblées dans deux albums, quelques titres que je connais d'elle, avec deux titres inédits en digital, enregistrés au début des années 70, Les Fourmis et ce, dit qu'est-ce qui nous fait rire. Françoise Hardy, qui sera donc à l'honneur le 28 janvier à l'auditorium de la Maison de la Musique et de la Radio, dans l'autre sens, ça marche aussi, dans Message personnel ou pluriel, mise en musique par Sage avec une pléthore d'invités. Et c'est une création musicale qui connaîtra un deuxième acte, plus électro, toujours mené par Sage. Ce sera le 24 avril au Printemps de Bourges. Voilà, l'Hyper Weekend Festival, c'est à la Maison de la Radio et de la Musique, 26-28 janvier, billetterie ouverte. C'est encore le moment de se faire plaisir. Ça donne envie, non, quand même, la programmation
c'est super, hein.
De cet Hyper Weekend Festival. Qu'est-ce que vous en dites, Pierre III?
Gros programme, Mika, plein de copains, plein de connaissances, que des gens très talentueux, faut y aller.
Et Françoise Hardy?
Une création autour de Françoise Hardy, ça vous donne envie d'y assister?
Bien sûr, moi j'adore Mika. Françoise Hardy.
Moi j'ai écouté ça tout l'été avec mes enfants dans la voiture, la maison où j'ai grandi.
La maison où j'ai grandi, j'adore.
Ouais.
Côté. Côté. Club. Pour écouter chez moi ou dans un club.
Laurent Goumard.
Mika et Pierre III sont les invités. Bonne année 2024.
Ouais,
aujourd'hui, bonne année.
Bonne année.
Pierre
III. Faire du bruit.
Pierre III qui signe son premier album sous ce nom de Pierre III après 15 ans de musique, puisque les débuts ça remonte à quelques années.
Oui.
On vous a connu guitariste de Barbara Carlotti, entre autres, et puis membre fondateur du groupe Ouse de Raquette. Après après toutes ces années de succès avec Ous de Raquette, de concerts phénoménaux, je ne sais même plus comment on dit, vous n'en pouviez plus, il fallait s'avancer tout seul, Pierre III.
Le groupe s'est arrêté, c'est vrai, on a rempli des objectifs assez incroyables pour un petit groupe qui vient de banlieue parisienne. On a joué à Coachella, on a joué au Japon, on a joué en Australie, etc.
Ah, mais c'était dingue, ouais.
C'était assez fou, une histoire, je pense que c'était un peu comme un couple. Il fallait que chacun respire un petit peu. On aimerait beaucoup refaire de la musique ensemble. On n'était que deux dans le groupe. Hein.
Ouais, je sais. Ouais.
Avec Victor, qui désormais a une super belle carrière. Là, il fait toute la direction musicale de Starmania. Donc voilà, il y a une suite aussi. Il fait des super choses. Je l'embrasse d'ailleurs. Et effectivement, petite remise à zéro. La fin du groupe a aussi. Comment?
Oui, je vous vois.
Non, la fin du groupe, pour moi, c'était un vrai changement de vie. J'ai eu mon premier enfant à ce moment-là. Donc, on rentre chez soi et on fait, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que ça a mis quelques temps, quelques années à me dire, en fait, t'es encore musicien, il n'y a pas de problème, et le monde est encore ouvert à toutes les expérimentations possibles. Et je pense que c'est vraiment seulement pendant le premier confinement, en 2020, je me suis dit, ok, c'est le moteur, désormais, c'est le plaisir pur.
Nouveau projet donc avec ce nom de Pierre III, oui. En chiffres romains, c'est votre côté tsar de Russie ou numérologue?
Alors je crois que c'est mon côté, vraiment je ne sais pas choisir le nom des projets après Ous de Raquette et Pierre III.
C'est vrai que Ous de Raquette c'était quand même pas mal.
Alors je pense que Ous de Raquette nous a, voilà, il y a peut-être eu un peu de ça aussi.
Pierre III, pourquoi III?
Alors voilà, pour moi c'est la troisième phase de ma vie, l'enfant, l'adolescence, l'adulte. Le fait aussi de passer d'un couple à trois avec notre premier enfant.
Oui, donc
deuxième.
C'est ça, la numérologie.
La numérologie, un groupe aussi un peu psychédélique, c'est Spaceman 3, qui est un peu le Velvet des années 90, très psychédélique, etc. André 3000 aussi de Outkast, enfin voilà,
oui.
Toujours les noms.
Oui, bien sûr.
Un nom associé à Ariane 5 de notre enfance. Voilà,
Luden Wainwright, le père de Rufus.
Exactement, enfin en tout cas, ce genre de d'environnement.
Nouvel album, il s'appelle Discothèque. Avant, il y a eu Cluster et on entendait ce son. Plutôt ambiante.
Ouais. Absolument. Là, c'était vraiment pour moi c'était le retour à une musique. Donc, c'est assez anxiogène. Ça, c'est vraiment genre. J'ai pas détesté cette période du confinement. Je me suis dit, ok, là, on n'a plus de repères. On va se recroqueviller un petit peu. Et pour moi, cet album Cluster est vraiment un retour à. Comme si j'avais 15 ans, j'ai un 4 pistes et tout est possible, tout est permis. Pas de question de format, de pop, de 3 minutes 30, de le refrain, etc. C'est quasiment instrumental. C'est 20 minutes et 20 secondes de musique par face. 20 minutes et 20 secondes comme 2020. Voilà, j'ai une
espèce de cadre. Ah oui, non, mais la numérologie à fond, là, j'ai bien compris.
C'est vraiment ça, votre truc. Et c'est un grand morceau de 20 minutes par face. Voilà.
Pour Discothèque, le virage est total. Vous avez vrillé depuis que vous avez un enfant? Qu'est-ce qui se passe, Pierre III?
Pas du tout. Je pense que c'est. Je pense que j'ai à chaque disque, j'ai envie de changer de style désormais. J'ai aussi.
C'est pas très stratégique, vous le savez.
Je le sais. C'est un suicide commercial total. Il est tellement difficile de se faire un nom. Mais je suis porté par ça. Vraiment, j'ai envie de rien m'interdire. Voilà, cet album est très hommage à la French Touch. Voilà, nos amis casqués, robots se sont séparés. Je me suis dit, tiens, je me suis jamais vraiment penché sur cet aspect de la musique, etc. En ayant bossé avec Philippe Sdard de Cassius, etc., sur Ous de Raquette, bien sûr que ça a toujours été là. J'ai tendance à dire que la musique électronique pour moi, de danse, a toujours été comme un membre de la famille qu'on voit pas beaucoup, mais avec lequel on aime bien rire au repas de famille. Donc il y a un petit peu de ça. Cette fois, je me suis vraiment concentré là-dessus.
Mais ça veut dire que vous pourriez vous produire en club?
Oui, absolument. Tout le monde me pose la question.
Vous avez des contacts?
J'ai des contacts.
Vous allez faire le Rex?
Pourquoi pas, je sais pas. Ouais.
Comment vous allez le défendre en live? J'ai regardé, il n'y a pas de tournée pour l'instant.
Non, il n'y a pas de tournée. Pierre 3, c'est vraiment pour moi un projet de producteur. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça implique de faire des concerts, le temps que ça prend, la charge mentale, etc. J'ai l'impression que j'ai un petit peu tourné la page de ce truc-là. J'aime énormément faire de studio. C'est mon instrument principal aujourd'hui et j'aime bien ce côté un petit peu sorcier fou dans son laboratoire qui pond de la musique, etc. Et voilà, c'est ça qui est important pour moi.
Direction Discothèque, c'est votre premier album solo, Pierre 3. On y entend Nonsense. Qu'est-ce que vous en diriez pour le présenter à Mika?
Nonsense, c'est drôle qu'on ait parlé de Talking Heads tout à l'heure parce que Stop Making Sense en fait un lien direct. Les paroles, je pense que ça a toujours été un truc très clé pour moi, pour nous, à l'époque de The Racket. J'ai toujours considéré la voix comme un instrument et pas comme le vecteur principal d'information. Et je questionne cet aspect-là dans ce morceau qui s'appelle Nonsense, comme si la musique se suffisait à elle-même et que je mettais la voix pour ne rien dire finalement. Et le fait de ne rien dire, ça dit qu'il y a quand même quelque chose. On est inondé de propos, on est inondé de messages. J'appelle ça un peu le nouveau mal du siècle. Voilà, on est tous sur Insta, on le sait, on joue le jeu, etc. Pour moi, le non-sens, c'est ce débordement, cette profusion d'informations, et c'est une pause. Voilà, je parle de rien. J'ai envie de parler de rien dans ce morceau et je le fais avec ce morceau qui s'appelle Non-Sens.
Je n'ai rien à dire, mais je le dis quand même. J'invente une vie qui n'est pas la mienne. J'invente des histoires que je n'ai pas vécues. Simplement dans l'espoir d'être entendu. N'importe quoi, je ne vais pas. Parlez de moi, parlez de toi. N'importe quoi, je ne vais pas. Parlez de moi, parlez de toi. Chansons qui ne parlent de rien. Les vibrations du son suffisent à mon bien. Quand je chante, on peut entendre le vent. Pour exister, j'ai choisi le néant. N'importe quoi, je ne vais pas. Parler de moi, parler de toi. N'importe quoi, je ne vais pas. Parler de moi. Parlez de toi.
Nonsense, extrait de Discothèque, premier album pour Pierre III. Mika, je vous ai vu bouger en écoutant ce titre.
Ouais, j'ai bien aimé. C'est super. Il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Of Montreal. Et ça fait un peu... Ça rentre dans l'esprit de... Et j'adore cette idée aussi de nonsense. Je pense que dans le nonsense, il y a la plus grande vérité.
Pour comprendre l'ADN de cet album, je vais vous passer quelques titres. Vous allez me dire si c'est OK. Le premier... Dance de SG, c'est ce que vous avez écouté, Pierre III ?
Absolument, c'est vraiment la musique que ça, je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire, c'est un trio de sœurs qui s'appelle donc ESG, donc qui a dû côtoyer aussi les Talking Heads, etc., sur la scène du CBGB à New York, etc. Voilà, une voix, une basse, une batterie, et c'est une espèce de groove complètement bancal. Ça se joue pas très bien, mais il y a un esprit complètement dingue. Et j'avais contacté l'ESG pour avoir un feat. Et je me suis pris une crampe monumentale.
C'est-à-dire, elles ont répondu ou pas
répondu ? Elles ont répondu, mais c'était un peu à l'américaine, quoi.
C'est intéressant.
Voilà, c'est ça.
Oh, super !
Non, c'était oh, c'était pas oh, super, c'était oh, combien ?
Ah, d'accord, bien entendu.
Ah, ouais. Ça, c'est à l'américaine.
Voilà. Un autre titre.
Mais je les embrasse.
Vous connaissez cette voix, ce son, Mika ?
C'est qui ça ?
Alors c'est Charlotte Adigéry et Bolis Poupoul. Ce sont des artistes flamands, français, chinois, etc. C'est signé sur le label de Solwax. Dis oui.
Flamand chinois.
Ouais, tout.
Et c'est un disque incroyable. Le disque s'appelle Topical Dancer. Donc il y a un lien avec évidemment Nonsense. C'est-à-dire qu'on peut danser et réfléchir en même temps. Leur disque aborde un milliard de sujets extrêmement contemporains. Ils le parleront mieux que moi. Mais voilà, dans la production, c'est fun, c'est intelligent. C'est un disque que je recommande. Voilà, qui a été un peu un déclic aussi pour moi. Sur ce disque en tout cas, voilà.
Et quand on pense que vous venez de là. No more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'adorais le coup de caisse.
Et vous venez de là.
Ouais, alors ça, c'est vraiment un souvenir d'enfant.
Simon Garfunkel.
Ouais, mes parents écoutaient ça à la maison. Mes parents écoutaient beaucoup d'opéra, mais voilà, les best-of de Simon Garfunkel. Et moi, je me souviens vraiment avoir mis mon premier Walkman et d'écouter ça et d'essayer déjà de décortiquer la production. Et ce coup de caisse clair là qu'on entend dans la Vera Basson, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je me suis dit, ok, il faut que je comprenne, il faut que je gratte. Et je parle de ça, là, j'avais 9-10 ans, un truc comme ça. Et j'étais jeune guitariste déjà à l'époque, ces deux voix tout le temps en parallèle, les harmonies, j'étais là, ok, là j'ai quelque chose à faire, là je veux comprendre ça.
Alors il n'y a pas de raison, si on a votre titre déclencheur, on a le vôtre, Mika. C'est ça, mais c'est presque ça.
Ah, exactement. Il sera furieux. Bon, j'ai jamais rencontré, mais s'il était là.
Alors, expliquez.
Alors, ça, c'est Harry Nilsson qui est en train de chanter. OK? Ça, c'était une chanson de. Comment il s'appelait ce groupe qui a écrit cette chanson? J'ai
ça
oublié.
Va me revenir.
On va trouver.
Et en tous les cas, il a fait cette reprise et c'est devenu un énorme tube. C'était un grand, grand, grand auteur, compositeur, interprète, Harry Nilsson. Et voilà, il était super énervé parce que tout le temps, quand les gens venaient lui parler, il disait « J'adore ta chanson ». Il dit « Ouais, laquelle ?» Il disait « Can't live ». Et là, il devenait fou parce que c'était la seule chanson qu'il
avait écrite.
C'est son seul gros tube.
Et c'est pas lui qui l'avait signé.
Non, c'est pas lui qui l'avait écrite.
Alors, en quoi c'est un titre déclencheur pour vous ?
La fantaisie. La fantaisie, le naïf. Bon, peut-être vous connaissez la chanson Coconut. You put the lime in the coconut, you shake it all up, you put the lime. C'est, en fait, c'est ça, c'était ma référence quand, quand j'ai écrit la chanson avec Vianney, Keep It Simple. Doctor, ça vient de Coconut. Hein. Pour moi, c'est une référence partout sur mon premier album. Il est partout sur mon album, mon deuxième, mon troisième. Sur Stuck in the Middle, il y a une chanson où je fais deep a doo, tap a doo, doo, zap, bap, zap a doo. Et Nilsson, c'est zap, zap, doo, bap, zap, bap. C'est tellement psychédélique, naïf et dark et profond à la fois. C'est tout un mélange, c'est vraiment... Il faut écouter une chanson qui s'appelle 1941, qui parle de sa vie. Il raconte sa vie comme si, c'est comme si avec son père qui échappe, qui lui quitte, lui et sa mère, pour aller rejoindre le cirque. Et on fait tout le cirque avec ce hymne. Et à la fin, c'est lui qui fait exactement la même chose, qui échappe sa vie personnelle vers le cirque. On ne sait pas s'il est en train de parler du cirque ou s'il parle de la bouteille et qu'il parle de l'alcool. C'est tellement touchant, tellement vrai et tellement Disney dans le sens noble du terme, Disney des années 40-50.
Vous voulez connaître le nom du groupe, donc ?
Ouais, c'était Raspberries ? Non. C'était
pas... Badfinger.
Badfinger.
Eh ben voilà.
C'est un groupe qui a écrit une superbe chanson. Ils l'ont chanté tellement mal. Et heureusement, grâce à Harry Nilsson, sans Nilsson, Badfinger, ils ne seront pas très riches parce que c'est Mariah Carey qui a cartonné dans le monde entier avec ce Badfinger.
On va se quitter avec un animal qui a le sens de la fête. C'est le chat de Johann Papa Constantino. Mon chat danse sur France Inter. Ah.
J'aime bien sa nonchalance pendant que le monde avance. J'aime bien quand mon chat danse. J'aime bien sa nonchalance pendant que le monde avance.
Ça ronronne quand j'ai la tête. Maquin, son âme, ses mots, vraiment, son pas banal. Madame, fatale, pas d'amalgame. Ses mots, vraiment, je les réclame.
Pendant que le monde avance.
La pellule mode d'emploi, elle met pas de sa méthode de combat. Elle a tout le temps l'air détendu. Au soleil, elle a les yeux fendus. Elle a dû me calculer deux fois. Elle a dû me calculer deux fois. Il s'agirait d'un malentendu. Sous l'eau, les silhouettes sont tordues.
Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mika.
Un grand plaisir.
Je rappelle ce nouvel album, Que ta tête fleurisse toujours. Dieu soit béni. La tournée d'Apocalypse Calypso Tour débutera le 26 février au Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand. 1er mars, Arcea Arena de Bordeaux, le 6 à Rennes, le 19 à Lyon, le 23 mars à Marseille et le 25 Paris, Accor Arena. Pierre III, merci à vous.
Merci beaucoup.
Pas de concert, pas de tournée.
Il faut que je m'y mette, sérieusement.
Pour l'album qui s'appelle Discothèque. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Bonjour les frères et sœurs. Aujourd'hui, je parle comme un ascenseur. J'ai besoin de ça pour prendre de la hauteur. Ok. Aujourd'hui, émission très spéciale avec...
Sydney et Souffrance, ils seront nos invités HIP et HOP. C'était les invités du 7 novembre dernier. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Mathias Alléon en programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, préparation Tara Natouri et enfin en playlist, c'est Juliette L'Orphelin. Côté club, on ferme. Mot d'ordre pour cette nouvelle année, bougez ! N'est-ce pas, Mika ?
Pour votre santé, bougez plus.
Bonne fin de soirée 2024. Alors à demain.
Oh, c'était formidable.
La musique, elle n'est jamais triste.
Oui.
Elle existe.
Yes.
Ou elle n'est pas.
Bye, bye.